succès, il y a S, il y a U, il y a C, il y a C encore. Nous sommes sur le deuxième C. Le deuxième C ici parle de calculer son parcours. Donc, numéro 1, sélectionne ta vision. Sélectionne les objectifs que tu veux atteindre. Deuxième chose, utilise ton potentiel. Troisième, conforme ta vie au plan de Dieu. Quatrième, calcule ton parcours. Proverbe 19, verset 2. Oui, est-ce qu'on peut lire? Nous sommes au cinquième volume de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Proverbe 19, verset 2.
On se tient debout. Le manque de science n'est bon pour personne.
Le manque de science, c'est-à-dire de connaissance, n'est bon pour personne.
Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché.
Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Une deuxième lecture et on va s'asseoir. Proverbe 27, verset 12. Oui.
Proverbe 27, verset 12, la Bible dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis.
L'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. Veuillez vous asseoir. Merci. Alléluia. Donc, nous parlons ici du C, du deuxième C, afin d'arriver au véritable succès. C'est calculer son parcours. Lorsqu'on parle de calculer son parcours, de quoi parle-t-on? Frères et sœurs, vous savez, j'ai compris simplement, et malheureusement, on parle, mais plusieurs ne comprennent pas que dans la vie, tout est question de compréhension. Tout est question de compréhension. Ceux qui comprennent la vie sont ceux qui domptent la vie et qui arrivent à achever leur course. Parce que la vie est bizarre. La vie n'est pas simple. Le monde que vous voyez là joue des tours. Oui. Proverbe 24, verset 3 à 4. Lis-moi.
C'est par la sagesse qu'une maison s'élève.
Oui.
Et par l'intelligence qu'elle s'affermit.
C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Ça veut dire que l'affermissement, le succès même dans la vie, ne se fait pas par hasard. La sagesse et l'intelligence. Et ce point parle de calculer son parcours. Est-ce qu'on peut dire que moi, calcule ton parcours? Ici, lorsqu'on parle de calculer son parcours, on parle de planification. Tout le monde dit avec moi planification. Il s'agit de planifier. Vous savez, il est préférable pour vous de regarder devant, de vous préparer, que de regarder derrière et de regretter. Donc, un homme qui aspire au vrai succès, selon ce que nous sommes en train de dire, devenir ce que Dieu veut qu'il soit, est un homme qui doit planifier son parcours. Est un homme qui doit calculer son parcours. Est un homme qui doit comprendre que ces choses-là ne sont pas négociables. Planifier d'avance et calculer son parcours. Si Dieu est votre partenaire, alors comprenez que, numéro un, vous devez planifier votre parcours. Étant donné que Dieu est votre partenaire et que vous le savez, alors rêvez grand, établissez des projets et ces projets réussiront. Mais le volet de la planification n'est pas négociable. Pourquoi il est important de planifier? Numéro 1, planifier ou calculer son parcours est important pour ne pas être surpris par le coût de la vie. Parce que la vie a des coûts. Et un homme qui ne planifie pas sera surpris par les coups. Vous savez, quand on est très souvent, bon, on a été dans le sein maternel, on a vécu, on a été protégé par les parents jusqu'à un certain niveau, mais on ne s'en rend pas compte si on n'a pas eu des parents qui nous donnent vraiment beaucoup de bons conseils, que la vie est cruelle et que la vie a des coûts et qu'il y a des prix à payer pour être un survivant. Parce que nous sommes dans une jungle où tout tend à tuer tout le monde. Mais un homme qui n'a pas compris que dans sa marche avec Dieu, il faut également ne pas marcher simplement les yeux fermés pour dire « j'ai la foi en Dieu ». Souvent les chrétiens me font rire, c'est bizarre. J'ai la foi en Dieu, tout ce que Dieu fait, bon, on va aller avec Dieu, ça va marcher. Dieu, et puis ils sont là, et puis ils marchent comme ça. Dieu, la foi n'est pas la folie. Dieu ne vous a pas appelé à croire en lui et puis à tuer votre intelligence. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Donc, il est important quand on sait qu'on va quelque part. Jésus l'a dit. Il dit, personne ne peut bâtir une tour sans s'asseoir pour faire des calculs. Parce que dans tous les cas, si tu ne fais pas les calculs, c'est les calculs là qui vont te faire peur après. Parce que quand tu vas te rendre compte que je veux bâtir une tour, je me suis engagé parce que j'ai juste envie de bâtir la tour. Maintenant, après, tu te rends compte que ah, le ciment coûte tant, le fer coûte tant, mais ce n'est pas vrai. C'est des choses qui vont t'effrayer. Donc, la planification est importante pour ne pas que Satan t'effraie. La vie a des coûts. Sinon, Satan va t'effrayer sur le chemin. Planifier également vous permet d'anticiper et de courir avec avance. C'est ce qu'on appelle vivre par une connaissance d'avance. C'est-à-dire, tu sais certaines choses avant que le commun des mortels n'arrive à la connaissance de la chose. Donc avant même que tu arrives là, tu sais. Donc tu peux anticiper. Malheureusement, il y a des gens qui vivent au jour le jour. De toute façon, la vie arrive là, c'est comme ça, ils prennent ça. Rien n'est planifié. Tu me diras, mais pasteur, la planification, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la planification? Prends. Planifier, c'est organiser dans le temps la réalisation d'un objectif. Planifier, c'est organiser dans le temps. Donc, la notion de temps est très importante. Organiser dans le temps la réalisation d'un objectif. Donc, la dimension temps dans la planification est très, très importante. Malheureusement, les chrétiens en général, s'il y a une chose qu'ils ne maîtrisent pas du tout, c'est le temps. Planifier également peut se définir comme la liste des choses qu'on a à faire. Le plan détaillé qu'on a à suivre. Par exemple, j'ai un objectif à Athènes. Cette année, par exemple, on a dit à l'église, ABMC, année de la manifestation. Ça veut dire quoi? Nous sommes en train d'expliquer. Deux, croissance numérique, objectif. Nous voulons tripler. Mais, c'est important de sélectionner la vision que nous voulons atteindre en tant qu'entité, église et ensemble. Mais ça ne suffit pas. Il faut mettre en place une planification pour atteindre les objectifs. Et on a dit planifier, c'est quoi? J'ai dit tout à l'heure, c'est quoi? Vous avez oublié déjà? C'est organiser dans le temps la réalisation d'un objectif. Ça veut dire que chaque mois, éventuellement, nous devons quantifier de façon, c'est-à-dire à un niveau moindre, si l'objectif est atteint ou pas. Numéro un, on a mis en place les cellules de famille, c'est-à-dire les groupes de famille, qui sont un moyen également de planification pour atteindre notre objectif de croissance. On a assigné un but à chaque famille pour dire, ce qu'on attend des familles, ce n'est pas le boucan. Le boucan, c'est normal. Mais si une famille, vous êtes 15, qu'à la fin de votre mandat du mois, vous devenez 30. En évangélisant, en travaillant pour que de nouvelles âmes s'intègrent et soient fidélisées. Et que dans votre organisation en interne, dans les familles, que ce ne soient pas les personnes qui sont déjà en activité dans l'église, mais que ce soit des personnes qui étaient peut-être à l'extérieur de l'église ou qui venaient à l'église mais qui étaient cachées, que ces personnes-là soient intégrées dans le système et qu'ils apprennent à s'intégrer dans l'ensemble. Donc, il y a des objectifs fixés et donc, nous devons voir comment maintenant mettre un système en place pour que ces objectifs-là soient atteints. Donc, il y a des questions, par exemple, dans la planification qu'il faut se poser, c'est qui, quoi, quand, où, comment et combien. Donc, on ne peut pas parler de planification sans un certain nombre d'éléments. Et c'est important parce que beaucoup de chrétiens, bon, je considère que vous qui êtes ici, assis devant moi, là, tout le monde a un objectif. Chacun a choisi, chacun sait ce qu'il a fait de façon claire et nette. Moi après moi. C'est bon pour tout le monde? Ok. Maintenant, si tu as un objectif, l'objectif en lui-même ne vaut rien s'il n'y a pas une planification. C'est pourquoi ces questions-là, tu dois te les poser. Numéro 1. D'abord, quel est l'objectif recherché quand je me fixe pour but d'atteindre ça? Parce que regardez, j'ai parlé de sélectionner la vision. Tu te fixes un but. Voilà ce que je vais atteindre, voilà ce que je veux devenir, voilà ce que je veux que ma vie soit. Mais le but que je me suis assigné là, vise quoi? C'est très important. Parce qu'il ne faudrait pas aussi avoir un but ou un objectif qui en réalité au finish ne répond à rien ou ne participe pas à élever le nom du Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit, cette question est primordiale. L'objectif que j'ai répond à quoi? Répond à quel besoin? Je veux devenir un grand pasteur, pourquoi? Pour que les gens disent que mon papa n'a pas échoué dans la vie. Ou bien, je ne sais pas, c'est-à-dire, ce que tu veux devenir là, quel objectif ça vise? Pourquoi tu veux devenir ça? Pourquoi tu poursuis ce que tu poursuis? C'est très important, tu dois pouvoir répondre, et répondre juste. Demande à ton voisin, ce que tu veux devenir là, c'est pourquoi? Tu as peur de ton voisin? Vous savez, parce qu'il y a trop de gens qui ont des rêves, mais des rêves suscités par une vengeance, des rêves suscités par la misère, des rêves suscités par le complexe, des rêves suscités par, ça dit, la vie les a malmenés, ils ont rêvé et ils veulent se venger. Ça, ce n'est pas des choses qu'il faut poursuivre. Qu'est-ce qui motive le rêve que tu as dans ton cœur, l'objectif que tu poursuis? Est-ce que c'est pour le bien des autres? Est-ce que c'est pour que toi-même tu sois effacé, que d'autres soient élevés? Ou bien est-ce que c'est parce que tu veux écraser les gens pour qu'on dise, lui là, voilà le chef, et puis tu dis, oui, je suis arrivé. La femme que tu veux là, c'est pourquoi? Pour cacher une nudité ou bien pour réellement vivre ce que Dieu a dit? Parce qu'il y a des gens, il y a des gens même qui marient une femme, ce n'est pas vraiment parce qu'ils veulent la marier. Ils veulent juste qu'on dise aussi qu'il est marié, et puis bon, ça cache quelque chose qui, bon, ils ne voulaient pas qu'on sache. C'est tout, mais le reste là, ils s'en foutent. Ou bien ils marient la femme là juste pour, parce que c'est dans son travail, on dit si tu n'es pas marié, tu n'as pas le poste. Donc pour le poste, ils se marient. Mais en réalité, madame, tu es là pour le poste, c'est tout. Quand il a eu le poste là, il va te montrer que dans tous les cas, c'est à cause du poste, moi j'étais marié. Sinon moi là, je n'avais même pas envie de me marier dans ma vie. On insiste pour dire, s'il n'y a pas mariage, tu n'occupes pas le poste, je me suis marié. Donc fais gaffe, hein. Tu es là pour le poste. Si le poste part, tu pars. Tu tiens dans le poste. Alléluia. C'est-à-dire, quel objectif tu recherches en poursuivant ce but? Deuxième question importante dans la planification. Comment Vas-tu atteindre l'objectif là? Il faut que tu poses ça. Le comment est important ici. Comment? Comment? Parce que c'est important d'avoir quelque chose. Par exemple, on a objectif croissance, finition du temple. Tout à l'heure, je vais vous faire un point sur ce que j'ai décidé par rapport à la mobilisation de fonds pour la construction du temple cette année 2014. Donc, nous mettons en place une stratégie. On a eu une réunion lundi avec tous les responsables. Je leur ai demandé leur point de vue. Chacun m'a dit ce qu'il pensait. Je suis allé prier. J'ai dit, Seigneur, dans tous les cas, c'est toi qui décides. Dis-moi la conduite à tenir. On va aller dessus en tant qu'église. Donc, comment vas-tu atteindre l'objectif que tu t'es assigné? C'est très important. Le comment ici. Parce qu'on ne se fixe pas un objectif et puis on attend Dieu. Tu attends Dieu, Dieu t'attend. Qui attend son ami? On ne sait plus. Et la majorité des chrétiens sont comme ça. Ils disent, bon, je veux faire ça, mais je continue de prier, de faire confiance en Dieu. Ils pensent que ça fait spirituel. Je prie et je fais confiance en Dieu. Ça va aller. Un jour, Dieu va faire. Puis ils attendent un jour, Dieu va me... J'attends un miracle qui va venir. Une vieille femme qui a, en France, qui est presque morte, qui a plein d'héritages, qui va me rencontrer, qui va me donner tout son argent, et puis ma vie a changé. Puis il est là, il rêve. Puis il rêve. Il rêve. Parce que même si tu veux être grand, homme de Dieu, avoir une grande église, il faut que tu saches comment on a une grande église. Comment on devient grand pasteur. Comment on devient un homme respecté. Frère, ça ne vient pas comme ça. Ce n'est pas bâton magique. Bac! Et puis on est respecté dans le monde entier. Non. Comment? Il faut intégrer le comment. Quand tu as analysé le motif et que le motif est pur, le motif qui te permet de poursuivre le but est pur, le comment atteindre le but est essentiel. Qu'est-ce que tu mets en œuvre pour réussir? On ne s'assoit pas et puis la réussite vient. Voilà pourquoi on a beaucoup de problèmes dans l'église et que les gens ont plein de projets. Tu les vois et disent, ah, j'ai 10 000 projets dans ma tête. Mais pasteur, vraiment, il faut que tu m'aides. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ça. Ils citent plein de choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de comment. Comment? Réfléchis comment. Troisième question importante. Ici, c'est quel est le rôle et la responsabilité des différents acteurs qui participeront à l'accomplissement de mon but. Ça, c'est important également de définir. Toi-même, tu es l'acteur numéro un. Alléluia. Rôle et responsabilité des acteurs. Parce que c'est important de le savoir. Par exemple, dans l'accomplissement du but que nous sommes assignés, des objectifs qu'on a assignés à l'église en 2014, les acteurs, il y a vous, il y a moi. Dites amen. Jusqu'à quel niveau moi je dois jouer mon rôle pour que on finisse de couvrir le temple et qu'en termes de croissance, on arrive jusqu'à un certain niveau. Moi, je dois faire ma part en tant qu'acteur. Donc, je dois savoir ce qui me revient comme part. Et vous devez, en tant qu'église, savoir ce qui vous revient comme part. Comme rôle et comme responsabilité. Mais on ne dit pas, le pasteur a dit, 2014, c'est l'année de la croissance. Et puis, on est assis. Dimanche matin, on prend sa Bible. On laisse son voisin à la maison. On laisse son frère à la maison. Et puis, on vient à l'église seul. On ne dit pas, le pasteur a dit, c'est l'année de la croissance. Quand on vient à 11h à l'église, tout seul, et on dit, bon, non, on n'atteindra pas les objectifs. Parce que dans l'accomplissement d'un objectif, il y a plusieurs acteurs. Vous direz, oui, le pasteur a dit, il n'a qu'à prier, Dieu va faire ce qu'il a fait. Non, j'ai ma responsabilité. C'est d'organiser l'église et de permettre à chacun de comprendre, de vous enseigner la parole. Parce que ce que je fais ma part de responsabilité. Vous permettre de bien réfléchir, d'avoir les bonne direction, la bonne pensée et la bonne façon de voir les choses. Donc je m'évertue à ce que chaque dimanche, quand tu viens t'asseoir dans cette église, que tu ne sois pas quelqu'un qui reparte comme tu es venu, mais qui ait une valeur ajoutée. Je fais ma part. Mais toi, quelle est ta part? Ta part, c'est quoi? Dans cette affaire. Ce n'est pas moi qui vais descendre dans les rues, qui va aller évangéliser, parler de Jésus pour dire, venez à Jésus, venez remplir l'église, venez, 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 c'est notre année de temps. Et puis, je viens en même temps, je prêche. Non! Donc, tu as une responsabilité. Bien te tenir dans ton quartier, bien vivre à la maison, pour que ta vie soit un exemple dans ta maison, pour qu'en parlant de Jésus, tu n'aies pas honte, parce qu'à la maison, tu es un modèle, mais tu n'es pas ange Gabriel à l'église et Lucifer à la maison. Quel rôle et quelle responsabilité les acteurs que nous sommes dans les buts que nous nous sommes fixés. C'est très important. Parce que c'est, la plupart des chrétiens ne se sentent pas concernés. Et c'est ce qui est dommage vraiment pour nos églises africaines. Dans les pays anglophones, ils sont arrivés à un certain niveau de responsabilité, de compréhension. Lorsqu'une vision est donnée comme ça, la vision devient la vision commune. Mais il y a combien de gens ici, quand tu les tapes, tu leur dis, quel est l'objectif 2014? Ils vont d'abord citer qu'il veut acheter sa maison. Il en vue d'une voiture. C'est la vision personnelle qui est d'abord le plus important. Mais la vision collective qui touche aux intérêts du Seigneur est secondaire. Voilà pourquoi ils viennent à l'église pour ce qu'ils peuvent gagner. Ils viennent à l'église pour le bien-être qu'ils peuvent avoir. Ah, il paraît qu'il y a un pasteur là et quand il prêche, c'est bon. Donc, il vient tous les dimanches là. Mais d'abord, c'est quoi? Moi-même là, j'ai une petite cellule quelque part à Gonzagueville. Comme je veux vraiment les impressionner, il faut que j'aille là-bas. Donc, tous les dimanches, quand il vient, c'est pour prendre des notes, pour aller impressionner les gens. Mais pas vraiment parce qu'il veut venir ajouter quelque chose à l'église. Il n'a rien à foutre à la limite de ce qu'on pense, ce qu'on veut faire à l'église. Ce n'est pas son problème. Lui, dimanche matin, il n'a qu'à copier les points que tu donnes là. Et si tu dis ce dimanche, je ne prêche pas, il va dire, mais tu exagères. Mais comment c'est que ce pasteur, ce n'est pas sérieux? On vient de loin, on vient, il ne prêche pas. Mais ce que toi, tu as comme objectif, ce n'est pas son problème. Lui, il faut le rendre heureux, il va partir. Et la plupart des chrétiens sont comme ça. Ils sont assis. Mais ce que l'église, parce que les gens pensent que l'église c'est quelque chose de virtuel. Ils ne savent pas que l'église est quelque chose de réel parce que l'église, ils font partie de cette entité qu'on appelle l'église. Donc ils se départissent de l'église. Quand on dit l'église a ça, même en tant que pasteur, même le comportement de certains pasteurs, quand tu les regardes, tu peux savoir que les affaires de l'église à la limite ce n'est pas leur business. Tant qu'ils peuvent faire leurs affaires personnelles. C'est-à-dire que même le comportement de certains gens, quand vous les voyez, vous pouvez savoir jusqu'à où les intérêts du Seigneur, l'intérêt général compte plus que l'intérêt particulier. Quand l'intérêt général compte, il y a un comportement qu'on a. Vous savez, la Bible est scientifique. Hein? C'est lumière, c'est comme miroir. Quand on regarde dedans, on se voit. Il y a des gens qui ont besoin de se repentir. Responsabilité. On dit rôle et responsabilité. Donc, rôle à jouer, responsabilité en termes de tu dois le faire, tu ne fais pas, il y a sanction. C'est ça. Tu ne peux pas dire je viens à l'église quand je veux, je fais les choses comme je veux. Si Dieu t'a intégré dans le système, tu as une responsabilité vis-à-vis de l'objectif global qui touche aux affaires du Seigneur. Sinon, personne ne peut me demander des comptes à la fin de l'année pour dire, mais pasteur, tu as dit on avait deux objectifs. Pourquoi on n'a pas atteint? Tu vas me demander, moi, on dit rôle et responsabilité des acteurs. Je ne suis pas le seul acteur. La preuve, je ne suis pas responsable de la famille Aminadab ou de la famille Esrom ou de la famille Obed. Ils ont leur responsable. C'est ce qu'ils vont imprimer et c'est la conscience qu'ils vont avoir par rapport à la gestion des hommes qu'ils ont, résultat correspondant. Moi, je ne suis qu'en haut, quelque part là-bas. Vous comprenez? À la fin, on dira, oui, c'est vrai, c'est le premier responsable, donc c'est lui. Donc, en même temps, si tu es d'accord pour m'imputer la responsabilité de l'échec ou de la réussite de ce qui va arriver à la fin, alors, donne-moi au moins aussi le droit de te taper quand ça ne va pas. Ah oui, mais c'est ça. Ça veut dire que les gens veulent... Quatrième question. Quel est le calendrier pour l'accomplissement de ces objectifs? Parce qu'on a dit ici tout à l'heure que la dimension temps est importante dans la planification. C'est-à-dire, quand on fixe un objectif, ce n'est pas un objectif éternel. On ne dit pas, hé, hey, je veux devenir, je veux une croissance ou bien je veux finir, construire un temple. Mais ça dit, jusqu'à ce que Jésus revienne en dedans. Non. Quand on se fixe un objectif, ça veut dire, la chose est quantifiable. C'est dans le temps qu'un objectif se fixe. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, s'il vous plaît? C'est très important, Église. Donc, il faut un calendrier. Par exemple, on dit 2014. Ça veut dire que le temps est fixé. Le 31 décembre, cet objectif n'est plus valable. Il faut penser à autre chose. Qu'on l'ait accompli ou pas, si on reconduit l'objectif, ça place de quelque chose qui aurait pu être là. Voilà pourquoi je veux parler à chacun ce matin. Comprenez que nous avons des choses à faire et le temps ne nous attend pas. Mais Dieu ne fera jamais pour toi si tu n'es pas prêt à faire pour lui d'abord. Arrêtez de rêver. Il y a longtemps tu pries, tu cherches la chose là. Il faut commencer à t'intéresser à ce qui touche au cœur de Dieu. Tu verras que Dieu va s'intéresser à ce qui touche ton cœur. Tu ne peux pas piétiner ce qui touche le cœur de Dieu au détriment de ce que tu veux avoir. Tu n'auras pas. Que chacun prenne conscience, l'Église en général. Il y a des gens, on parle de famille, ils ne se sentent même pas concernés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent continuer à rester dans la clandestinité pour vivre leur vie comme ils veulent. Mais je dis, si Jésus-Christ t'a sauvé et que tu es entré dans cette Église-là, tu vas entrer. Si tu n'entres pas, mon ami, tu vas t'exclure seul. Parce que ça fait partie des moyens que Dieu nous donne pour atteindre nos objectifs. Cinquième question. Quels sont les moyens estimatifs à mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs? Quel est le coût? Qu'est-ce que ça va nous coûter de fixer ces objectifs-là? On planifie. On voit d'avance. J'ai dit, la planification est importante pour ne pas être surpris. Et ce que je suis en train de dire là, c'est bon pour ta société personnelle, tes affaires personnelles, là où tu es dans la vie. Parce que l'Église, c'est l'école de la vie. Moyen estimatif. À peu près combien ça va nous coûter? Qu'est-ce que ça va nous coûter de nous fixer un tel objectif? Il faut qu'on ait une idée. Ça va nous coûter le temps, l'évangélisation, sortir, prier, un certain nombre de choses. Ça va nous coûter de nous organiser mieux. C'est clair, la preuve. Demandez, vous allez voir qu'une réorganisation ou une organisation coûte. Le temps même des gens, ils sont obligés de venir tout le temps. S'asseoir chaque samedi, travailler sur les cultes. Les gens pensent que c'est amusement. Tous les cultes sont préparés d'avance. Et il y a des gens qui sont encore dans des systèmes passés. Quand on leur dit, venez pour la préparation des cultes, ils sont assis à la maison. Comment tu peux diriger une réunion? Tu dois prendre le micro à 9h et tu es à l'église. C'est à 9h que tu arrives à l'église. Quel temps tu as pour prier avant de commencer à parler aux gens? Ce n'est pas de l'improvisation. Servir Dieu, c'est du professionnalisme. Ici, là, ce n'est pas les gens ne viennent pas improviser pour chercher. Non, c'est une affaire de vie éternelle. C'est comme un médecin, tu me dis, un médecin qui n'a pas fini ses études et puis bon, il ouvre une clinique. Non, on n'ouvre pas une clinique quand on n'a pas fini ses études. Parce qu'ici, là, on ne sait pas. Tu t'amuses, tu tues quelqu'un. C'est la même chose avec l'Église. Un culte se prépare avec tous les acteurs du culte. Et un homme qui est acteur, qui n'est pas prêt à se disposer pour préparer le culte, il n'est pas digne d'être un acteur. Pourquoi vous voulez que c'est logique, n'est-ce pas? On sait quand même Dieu à qui on rend le culte. C'est à Dieu. Dieu n'est pas petit. Dieu est puissant. Dieu est au-dessus de tout. Donc quand on doit lui rendre un culte, il faut que le culte soit parfait, pratiquement agréable. Tout doit être planifié. Je dis souvent aux chantes là, à moins qu'on vous donne un cantique comme ça en passant, tout ce que vous devez faire dimanche, tout doit être répété, répété, parfait. Pas d'improvisation. Vous priez Dieu, Dieu vous donne la direction, vous préparez. On se prépare à la rencontre de Dieu. Quelqu'un, tu es dans le service d'ordre, tu dois être à l'église. Premier culte, c'est à 7h. tu t'emmènes à 7h30. Tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient. Ça va nous coûter quoi de faire tout ce que nous voulons faire là? Ça nous coûte quoi? Ensuite, la dernière question. Quelles sont les modalités de suivi et de contrôle pour atteindre nos objectifs? Parce que quand on fixe un objectif, on ne laisse pas l'objectif s'accomplir. Il y a tout un système qui est mis en place. Il faut mettre en même temps aussi une modalité de suivi et de contrôle pour que ce qu'on veut atteindre, là, qu'on puisse l'atteindre. S'il y a un petit problème, qu'on règle. Donc, les modalités de suivi et de contrôle. Donc, dans la planification, ces éléments-là sont très importants. Tu ne peux pas planifier sans tenir compte de toutes ces questions que j'ai posées. Ce n'est pas possible. Calculer son parcours. Ça veut dire, vous savez, on va au ciel. On a vu tout à l'heure que l'enlèvement, c'est bientôt. Mais est-ce que vous savez que il y a des choses, si vous ne les mettez pas en place, vous allez rater l'enlèvement. Sans être un prophète de malheur, tu vas rater l'enlèvement de Jésus-Christ. Tu vas faire partie des gens qui seront là, qui vont se chercher après l'enlèvement de l'Église. Dans la grande tribulation, tu vas te chercher. Et je vous dis, ce n'est pas évident ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. Ça va être terrible. Il y a certains chrétiens qui disent, non, on va tout faire pour ne pas répondre à la bête. Attends, tu vas voir. Il n'y a plus de Saint-Esprit. Les choses vont être cruelles. Ne suis pas ton frère. Hein? Regarde quelqu'un là. C'est, chaque être humain est un piège pour son ami. Chaque être humain est un piège pour son ami. J'ai dit, il y a un comportement. Si tu demeures dedans, tu vas rater l'enlèvement. Et tu dois planifier. Tu dois comprendre que la vie ne t'attend pas. Personne ne sait quand il part. Moi, avant-hier, je lisais les journées, puis je vois hein, l'ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine. On me dit il est mort. Comment il s'appelle? Papachi, quoi? J'ai dit quoi? Le gars, il est mort. Il parlait à la télé il n'y a pas longtemps. En Chine, il est mort. Pourquoi il est mort? On dit crise cardiaque, il s'est levé le matin. Quoi? Puis hop, il est parti. Ça, c'est monnaie courante aujourd'hui. Le gars s'est levé le matin, il t'a salué. Vous allez discuter. Le soir, tu ne le vois plus. Mais quand il est parti, là, il est parti. Maintenant, si tu n'as pas pris le temps de planifier ton départ, tu es surpris. Tu es surpris. Et bien surpris même. C'est pourquoi vivre dangereusement. Vivre dangereusement n'est pas utile. Vivre sans conscience, tu vois. Se lever, vivre comme ça, c'est pas sage. Tu vas te faire surprendre par la vie. Et je te dis, il ne faut pas compter sur Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, Dieu va descendre, il va me toucher, mon cœur va changer. Ah bon? Il y a plein de gens là, Dieu aurait pu descendre, les toucher, leur cœur a changé. Mais depuis là, ils sont dans leur vie bizarre. Il y en a qui meurent dedans. Frère, méfiez-vous. La vie nécessite qu'on prenne conscience. Le monde est trop dangereux. Regardez autour de vous. Tu sors même, tu n'es pas... Quand tu sors comme ça, là, on m'a raconté une histoire. Oh, mais je vous ai raconté cette histoire déjà ici. Une dame avec son mari qui sont sortis. Ils ont dit aux enfants, on arrive. Il y a eu quelque chose, puis ils ont dit aux enfants, on arrive. C'était le dernier, on arrive. Ils sont partis. Ils ont laissé les enfants à la maison. Un imbécile a quitté quelque part. C'est le vrai problème aujourd'hui. La mort là, c'est pas toi qui cherches même. Ça peut venir te chercher. Il roule tranquille, il est prudent. Il respecte le code de route. Quelqu'un est quitté là-bas. Il est venu jusqu'à cogner le gars, tuer le monsieur et sa femme. Et on ne savait pas comment annoncer ça aux enfants. Ils sont petits. Donc, les gens sont allés les chercher pour aller les faire balader. Et quand ils sont montés dans le train, les enfants ont commencé à faire du bruit, crier partout. Et puis il y a un des passagers qui s'est fâché pour dire, mais quels sont ces enfants mal élevés qui passent le temps à crier dans le truc? Et puis il était fâché. Il voulait même faire un scandale. Et puis il y a le gars qui les accompagnait qui est venu à côté et qui a dit doucement dans l'oreille du monsieur, ils viennent de perdre leurs parents. On ne sait pas comment leur dire. Automatiquement, le gars qui était fâché a eu compassion des enfants. Et il voulait même qu'il crie plus fort. Souvent, quand tu ne sais pas pourquoi quelqu'un fait quelque chose, c'est facile de juger les gens. Et tout à coup, la colère s'est transformée en compassion. Oh, il regarde les enfants. Donc pour lui, le jeu là, c'est bon pour eux maintenant. Parce qu'il ne sait pas si les minutes qui arrivent là, ils auront le temps de jouer comme ça. Donc, ils n'ont qu'à crier, sauter encore, même jeter les trucs. On ne savait pas comment leur dire. Ils sont sortis, ils ne sont pas rentrés. Frère, la vie. La vie est bizarre. Voilà pourquoi il faut planifier les choses. Il ne faut pas laisser les choses comme ça et puis tu attends, tu dis oui, oui. Oui, Dieu est bon. Et quand tu comptes avec Dieu, Dieu te donnera les idées qu'il faut pour faire la bonne planification, pour ne pas que l'ennemi te surprenne. La plupart souvent des gens, surtout les hommes de Dieu qui vont jusqu'à un certain niveau, quand on te raconte leur fin, tu sais que le gars, il n'est pas surpris. On dit, il devait mourir. Il allait finir de prêcher, il a fini. Il a dit aux gens d'arranger la maison. Il a dit sans se reposer. Et puis il est parti. Mais il avait déjà tout planifié. Il est parti dormir, on tape la porte, il ne se réveille pas. Il était couché tranquillement, il est parti. La plupart, c'est comme ça. Parce que Dieu parle. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? La vie que tu as là, tu veux faire quoi de ça? Les enfants que Dieu t'a donnés, tu fais quoi avec? Tu vis dangereusement. Tu es là matin, tu sors ici, tu rentres ici, on ne sait même pas où tu vas. Tu poursuis quel objectif? Tu viens t'asseoir à l'église. C'est pourquoi même tout ça? Je veux savoir. Est-ce que quelqu'un est courageux pour me dire? Ta vie n'a aucun impact. Tu ne fais que créer des problèmes partout où tu entres. C'est-à-dire que toi-même, tu sais que si tu disparais là, le monde va mieux se porter. Il faut changer. C'est très important de calculer son parcours. Parce que sinon, tu vas être surpris. Les choses vont te faire peur. Satan va te faire des coups. Tu ne vas pas comprendre. Deuxième, après le deuxième C, on est à quoi maintenant? Quelle lettre? La lettre E. Succès. La lettre E parle d'engagement ferme malgré les problèmes de la vie. Lis-moi 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58. Oui.
Corinthiens 15, verset 58, la Bible dit: Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, à l'œuvre du Seigneur,
sachant que
votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.
Il dit: Soyez fermes. Est-ce qu'on peut dire ensemble: Soyez fermes? Tu sais, quelqu'un a dit un jour, si tu te retrouves sur un chemin sans problème, tu découvriras également que le chemin là ne va nulle part. La fermeté est très importante dans l'accomplissement de ce que Dieu veut que nous soyons. Là où il n'y a pas de fermeté, tu ne peux jamais devenir ce que Dieu veut que tu sois. Devenir ce que Dieu veut que vous soyez va nécessiter un peu plus d'effort que ce que vous faites maintenant. Que vous soyez un combattant. Frère, je vous dis, ceux qui arrivent ne sont pas les plus forts, mais c'est les plus intelligents, les plus déterminés. Et Malheureusement, les chrétiens ne sont pas déterminés. Pour rien, ils sont découragés. Moi, je ne sais pas quel type de chrétien les gens sont devenus. Vous savez, je parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps et la personne me disait, quand je regarde l'église d'aujourd'hui et ce qu'elle a été, il y a une grande différence. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, regarde-nous. Ce qui nous fait tenir aujourd'hui dans la vie, c'est les premières valeurs que nous avons apprises. Mais les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas de valeurs. N'ont plus de valeurs. Parce que les valeurs ne s'enseignent plus. Quand quelqu'un vient à l'église, si on le voit tous les dimanches, il rentre, il sort, il rentre, il sort. La première chose qui passe dans notre tête, c'est comment lui donner une responsabilité. Il est le diablo. Il n'est pas le diablo. Ce n'est pas notre problème. On le voit à l'église. Pourquoi? Parce que venir à l'église et sortir, pour nous, il est chrétien. Non, venir à l'église, sortir, ne veut pas dire le gars est chrétien. Beaucoup de gens viennent matin, midi, soir, 15 ans, ils sont assis, ils ne sont même pas convertis. Même pas convertis. Je suis sérieux avec vous. Donc, parce que le frère est fidèle, tous les dimanches, il est assis. Il vient, il paye sa dîme, il sort devant, il dit, ah, vraiment, ce frère-là, Dieu doit être avec lui. Il est puissant. Depuis un mois, il est toujours à l'église. C'est un frère, il ne rate pas les cultes à toutes les réunions. Donc, est-ce qu'on ne peut pas le nommer diacre? Voilà, on a nommé le diacre Pierre. Alors que Pierre est moitié poisson, moitié crabe. Personne ne sait. Pierre assis. Maintenant, on l'appelle responsable Pierre. Malheureusement, dès qu'il a le titre de responsable Pierre, il a honte maintenant. Il ne peut plus aller voir le pasteur pour des trucs élémentaires qu'un simple frère peut aller dire, pasteur, vraiment, ça ne va pas. Hein? Moi, je suis, quand je vois la bière comme ça, mes yeux tournent. Il ne peut plus. Parce qu'il est responsable. Et voilà Pierre qui, toute sa vie, lutte parce qu'on lui a donné une position où on lui a porté des habits qui ne rentrent pas. C'est gros sur lui. Quand il voit tout le monde, il tire. Tu as l'impression que les bras sont justes. Mais il n'a qu'à faire comme ça, ça va descendre. Ça, c'est Pierre. Vous comprenez? Alléluia. C'est sérieux. C'est sérieux. Donc, on a beaucoup d'inconvertis dans les églises. Et après, quand tu découvres la personnalité du gars, tu dis, quoi? Même dans mon songe. Voilà comment, au dernier jour, je comprends pourquoi la Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents au ciel. Parce qu'au dernier jour, tu vas dire, non, je parie. Archange Michel, si tu veux même, mets 100 francs ici. Moi, je mets 100 francs. Le gars, là, il va entrer. Je te dis, va entrer, c'est un bon chrétien. Et puis tu seras surpris quand son nom n'est pas écrit dans le livre des vivants, ceux qui ont hérité le royaume des cieux. Parce que l'homme regarde à l'apparence. Il y a des choses que tu ne peux pas imaginer que certaines personnes qui sont assises ici là sont. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui étaient en boîte de nuit le week-end. Il y a des jeunes filles ici, Saint-Valentin, cette fête bizarre là, Saint-Valentin, elles sont allées sortir, garçons. Elles sont là. On dit fête des amoureux. Ce n'est pas précisé. C'est fête des mariés, c'est fête des copains, c'est fête des copines, c'est fête de qui? Tout est mélangé. Donc tout le monde se jette dedans, dit amoureux. Si quelqu'un t'aime, c'est à cette fête-là où tout le monde devient, ça dit, perd sa lucidité. Toutes les jeunes filles. Moi, c'est le jour de la Saint-Valentin que mon mari, mon copain m'a connu. Je te gifle. Tu le connais même pas. Si c'est un gars qui bizarre, tu ne sais même pas. Après, il va foutre ta vie en l'air. Tu vois, les gars aussi sont là. Portent truc. Tu vois, ils se coiffent, ils jouent les bluffeurs. Ils mettent ici, il dit non, fais couronne. Puis ça va. Il vient, il y a des trucs, je suis venu te voir. C'est un menteur. Le gars, il ne croit rien de tout ce qu'il te dit. Il ne croit pas. Tu vas voir s'il croit. Attends. Attends un peu, tu vas voir s'il croit. Quand il t'a attrapé comme piège à attraper souris, tu vas voir s'il croit. Tu vas chercher parole là après. Tu ne vas plus trouver. Tout ça, c'est dit. Alléluia. Alléluia. La fermeté. Il y a des efforts à faire, hein. Il y a des efforts à faire. Pour devenir ce que Dieu veut que tu sois, tu dois être un homme ferme, un vrai combattant. La vie ne va pas être cadeau, mais tu dois dire, je refuse de me laisser faire. Comprendre les principes est très important. En général, les hommes ont deux approches face aux difficultés. La première approche, c'est que quand les hommes ont des difficultés en général, la première chose, soit ils essaient de contourner le problème ou de fermer les yeux là-dessus, attendant que, avec le temps, Dieu fasse quelque chose. Ça, c'est une solution temporaire. Ça te donne un répit, le répit pour un temps. Mais ce n'est pas ça qui peut régler ton problème. Parce que vous savez, j'ai dit ici un jour que un problème, soit il est réglé, soit il n'est pas réglé. Mais il n'y a pas une troisième alternative. Soit il est réglé, soit il ne l'est pas. Mais les hommes en général, et ça nous tous on reconnaît, les hommes en général n'aiment pas régler les problèmes, aiment déplacer les problèmes. C'est-à-dire quand la femme pose un problème, dit « Oh, on va voir », puis il prend et puis il met ça ailleurs. Puis il est là et dit « Voilà, tu as vu, tout va bien ». Mais elle, elle n'a pas oublié. Elle sait qu'on a déplacé juste. Mais quand elle rattrape le monsieur après, elle dit « Tu exagères ». Les trucs, ces vieux trucs-là, mais ce n'est pas vieux truc parce qu'en fait, les femmes, c'est quand le problème est réglé qu'elles peuvent avancer. Les hommes en général, non, ce n'est pas la même chose. Bon, chacun a sa constitution. Amen. Mais, donc la première approche, c'est fermer les yeux sur le problème. Mais ici, vous devez comprendre que ce n'est pas fermer les yeux sur un problème qui règle un problème. Un problème, il faut le régler. Si on le règle, on le règle. Tu ne règles pas, ça y est là. Tu ne passes pas en classe supérieure. Malheureusement, beaucoup ont tellement esquivé les problèmes qu'aujourd'hui, c'est devenu comme ça, comme un fardeau énorme sur leur tête. C'est ce que je dis toujours. Ton problème est affaire de femme, il faut régler. Mariage ne règle pas problème de femme. Se faire bonne conscience ne règle pas problème de femme. Règle ton problème. Tu es un voleur, règle ton problème. Non, je ne veux pas travailler là où il y a l'argent. Mettez-moi où on fait téléphone, standardise. Tu es un voleur qui n'agit pas encore. Tu n'as pas changé, hein. On t'a mis standardise. Donc, tu n'as pas accès à l'argent. Mais tu demeures un voleur qui n'a pas encore eu l'occasion de voler. Mais règle ton problème et va être trésorier. Et quand tu es trésorier, là, tu regardes et puis tu prends rien. Tu es délivré. Parce qu'en général, vous allez voir que les gens le disent. Ah non, moi je préfère ne pas aller là-bas, je veux pas de problème. Ou bien dans tel groupe, je ne rentre pas dedans parce que les gens aiment trop faire des palabres. Je suis très nerveux, je ne veux pas me fâcher. Mais ce n'est pas en refusant d'aller quelque part, de ne pas être là. Je vois même des raisons qui disent oui, oh, on m'insulte. Les gens sont contents. Mais quelqu'un t'insulte, tu l'insultes, puis vous êtes frère, et puis ça, la vie continue. Moi, je ne comprends pas pourquoi je ne vais pas à l'église, je suis fâché parce que les responsables sont trop méchants. Ah, bien, si là, les gens parlent mal. Mais ils te parlent mal, tu le parles mal. Petit, on est frère. Tu m'as parlé mal, ils t'ont parlé mal. Et puis la vie continue. On a besoin de se fâcher pour ça, là. Non, moi, je ne sais pas. Tu me parles mal, je te parle mal. Et puis on est frère. Après, parler mal, là, on continue la route. Mais je ne te fuis pas. Je veux pas. Peut-être Dieu veut me guérir d'un problème. Parce qu'on ne peut pas te guérir d'un problème si on ne met pas le problème dans ton environnement immédiat. Quand Dieu veut te guérir d'un problème, il va te faire rencontrer le problème. Je vous ai dit, ce qui est ton problème est aussi ta solution. Mais tu fuis le problème, tu fuis la solution. Et donc les gens disent, ah non, moi je ne vais pas là, ah non, je vais ici, moi je suis dans mon coin. Mais dans ton coin, on ne va pas t'arranger parce que tu demeures toi avec tes faiblesses que Dieu veut enlever. C'est pourquoi il faut avoir le courage d'affronter les gens. Et la deuxième approche, comme j'ai dit, la première approche, c'est soit de fermer les yeux ou de ne pas considérer le problème. Mais la deuxième approche, c'est quoi? C'est d'affronter le problème et de vaincre le problème. De comprendre que chaque problème cache en lui-même sa solution. Et de regarder le problème, d'affronter le problème, de régler le problème et puis avancer. Là, tu avances. Parce qu'il y a des avancées qui ressemblent à des avancées, en réalité qui ne sont pas des avancées. Quand on a esquivé le problème, non, je reste dans mon coin, je ne parle plus. Si tout le monde te fatigue, tout le monde te parle, tout le monde te parle, c'est parce que Dieu veut régler un problème à ton niveau. Accepte la cure. Accepte que Dieu te bouscule un peu. Et comme les gens n'aiment pas changer en général, ils ne s'exposent pas, ils prennent la fuite. Quand il y a trop de pression, ils prennent la fuite. Il y a des gens qui ne supportent pas les pressions. Il y a des plein comme ça. Des chrétiens, tu vois. Mais je vais vous dire une vérité. Beaucoup de gens sont malades. Émotionnellement malades. Dans les idées, malades. Vous les voyez assis comme ça, mais ils sont complètement malades. Comprenez-les. Bâtir une église n'est pas facile. C'est des hommes. Et vous savez, un homme est complexe. C'est complexe. Et surtout dans cette francophonie-là, c'est complexe. Les hommes ont leur ego, ont leur façon de voir la vie, de penser les choses. Ils sont nés avec, ils ont grandi avec. Et toi, tu viens à l'église, tu leur dis, voilà comment on doit voir les choses. Ce n'est pas évident pour les gens. C'est pourquoi il faut avoir beaucoup de flexibilité pour pouvoir vraiment être quelqu'un que Dieu peut changer. Tu n'es pas flexible, Dieu ne peut rien faire avec toi. Malheureusement, la plupart des gens ne sont pas flexibles, n'aiment pas se laisser manier par le Seigneur. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Alléluia. J'ai donné cet exemple-là ce matin. C'est quelqu'un qui est né, il n'a même pas fini de s'asseoir et dit, il veut marcher. Non. On ne peut pas brûler les étapes de la vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Grandir nécessite que tu passes par des étapes obligatoires. Tu dois faire face à ces étapes-là. Tu ne peux pas les échapper. Tu ne peux pas brûler, fermer les yeux sur un problème, sur une situation, et croire que en fermant les yeux, tu vas faire jouer, on appelle ça la politique de l'autruche. Et tu sais, un problème que tu refoules, tu fermes, ça te rattrape toujours. Et je parle ici aux femmes. Quand tu as quelqu'un que Dieu met sur ton chemin, un homme, ton mari, il faut lui dire la vérité. Parce que tu peux l'encenser. Il fait les mauvais trucs, tu dis, oh, c'est pas grave. Oh, tu es beau, alors que tu sais qu'il est vilain. Le jour où quelqu'un va lui dire, il est vilain dehors, il va le convaincre qu'en réalité, tu es très vilain, c'est toi qui vas avoir les problèmes à la maison. Ah donc, tu me mentais. Dis-moi, je te mentais où? Tu me mentais, on me dit je suis vilain, tu me dis je suis beau tous les jours. Tu vises quel objectif? On dit, la politique de l'autruche là, c'est pas bon. Parce que certains pour sauver leur foyer ou pour sauver des intérêts apparents sont prêts à jusqu'à se dénier, à dédier même leur vérité, à tuer leur valeur au profit d'eux. Non! Quelqu'un fait quelque chose, met le doigt dessus pour dire ça là. Mais on ne dit pas, on voit la chose. Mais on refoule. On voit la chose, on refoule. On voit que c'est blanc, on dit bon, c'est marron. Ça va te rattraper. J'ai dit, ça rattrape. Ça va te rattraper. Sois toi-même. Mais ne tue pas ta personnalité parce que tu veux gagner quelque chose. C'est que ce n'est pas Dieu qui te donne la chose. Ça va te rattraper. Hein. Tu fais quelqu'un. Nos enfants, c'est la même chose. Souvent, à force de, tu as un enfant, il fait des bêtises, tu fais rien parce que tu veux le contenter. Mais en fait, après, il devient une bombe en tes mains. Une bombe. Et on voit ça en Europe, plusieurs enfants qui sont devenus autre chose. Mais le vrai responsable, c'est la mère qui n'a jamais eu le courage de dire à la jeune fille, là, on ne fait pas ça. Parce qu'elle va pleurer. Et elle n'aime pas voir sa fille pleurer. Mais qu'elle pleure. Est-ce que quand on pleure, on meurt? Je t'ai dit ici que c'est vous qui connaissez le chemin. Les enfants ne connaissent pas le chemin. Ça va faire mal, mais il faut leur dire ça. Mais ce n'est pas facile ce que je te dis. Hein. Je te dis que ce n'est pas facile. Quand tu amènes un enfant jusqu'à un certain niveau, il pleure, tu n'as pas envie qu'il pleure, tu lui donnes ce qu'il veut. Mais en donnant, même de l'argent, à un moment donné, l'enfant il commence à s'habituer à l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Il devient voleur. Tu n'es pas là, il pique des trucs dans ton truc, il ne te dit pas. La fermeté. À force de refouler, ça va revenir sur toi. Tout ce qui est destiné à grandir suit une logique. Il y a des étapes, il y a des difficultés. Il faut faire face à cela. Il faut rester ferme. Dites amen. Ferme face aux difficultés de la vie. Tu ne vas pas mourir. Une vie facile n'est pas une bonne vie. Dieu ne nous a jamais promis de vie facile. Lisez votre Bible. De Genèse à Apocalypse, Dieu nous a promis une seule chose, une vie possible. Mais une vie possible n'est pas une vie facile. On dit possible. Possible veut dire, ça va être dur, mais tu vas finir par t'en sortir. Il va y avoir des moments où ce sera facile, tu vas passer. Mais ce ne sera pas toujours facile. C'est ça la vie qu'on nous a promis. Et il faut dire aux chrétiens la vérité. Quand on devient chrétien là, tout n'est pas facile. On dit cadeau, Jésus donne tout cadeau, Marie cadeau, l'argent cadeau. Ça, ne chantez jamais ce truc là ici. Les gens mettent ça dans leur tête. Jésus donne tout cadeau, l'argent cadeau, tout cadeau. Donc il vient s'asseoir, il s'attend à un cadeau. Dieu n'a qu'à donner tout cadeau. Quand il est face à une difficulté, il dit non, on ne m'a pas dit ça. Il n'a pas intégré ça dans son système. Mais quand tu n'as pas intégré dans ton système, ça veut dire que tu n'as pas planifié. Et quand tu n'as pas planifié, ça veut dire la chose là, la probabilité pour que ça te tape est très high. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Gloire à Dieu. L'esprit humain possède beaucoup de ressources pour faire face aux difficultés. Vous savez, Dieu ne vous a pas créé. J'ai compris une chose. Dieu vous a créé avec tellement de capacités qu'il n'y a pas une difficulté qui peut venir sur ton chemin que tu n'as pas les ressources pour faire face. Quelqu'un disait que rendez un homme invalide et il deviendra. Vous connaissez Oscar Pistorius, ce Sud-Africain qui n'a pas deux pieds, qui a ses pieds coupés, mais qui fait des exploits. Il dit, rendez un homme invalide et il deviendra Oscar Pistorius. Il dit, enfermez-le dans une prison et il deviendra un Mandela. C'est-à-dire, c'est juste pour dire que les hommes ont tellement de ressources que, quelle que soit dans la position que tu peux mettre un homme, croyant que c'est fini, ce n'est pas fini. Si cet homme-là a compris ce que nous sommes en train de dire, je ne sais pas où la vie t'a déposé ce matin. Tu es venu dans un état piteux, fatigué. Il n'y a plus de repères. Tu n'as plus de repères. Tout est mélangé dans ta tête, autour de toi. Tu venais à l'église ce matin, tu dis, mais moi, je vais où? Bon, Dieu n'a qu'à faire encore ce qu'il veut. Moi, je suis fatigué de la vie. Tu ne sais plus où tu vas. Je suis venu t'annoncer que il y a plus que ça. Il y a plus que tes problèmes là en toi. Il dit qu'un homme ne peut pas être tenté au-delà de sa force. Quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passes. Frère, relève-toi le plus vite possible, réorganise-toi et puis fonce vers le but. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Tu vas passer combien de temps couché en train de pleurer? Le temps passe. Tu sais, j'ai compris une chose. Si tu n'as pas pu faire quelque chose, il ne faut pas perdre ton temps, fais autre chose. Peut-être que le temps de cette chose-là n'est pas encore arrivé. Donc ne perds pas le temps là. Prends le temps là, il faut maximiser. Quand le temps viendra, tu reviendras là. Amen. Attends, tu n'arrives pas à ouvrir une porte. Il y a une fenêtre et tu es sur la porte là depuis. Tu exagères. Le temps va passer. Tu es là. Ah, mais je ne sais pas, cette clé là. Tu fais qui, tu reviens. Mon frère, regarde la fenêtre. Et puis, il y a une petite ouverture. Tu es là. La porte là, vraiment, la porte. Mon frère, laisse ça. Saute par la fenêtre et puis tape la porte par derrière. C'est le même résultat. Alléluia! Dis amen! Qu'est-ce que je veux te dire? Tu t'es concentré sur mariage, ça ne vient pas. Calme-toi, il ne faut pas te fâcher. Calme-toi, gère ça, libère-toi, fais business. Quand tu vas commencer à évoluer, tout va commencer, tu vas commencer à avoir plein de sous. Mais attendez! Tu n'en as même pas besoin. Ils vont venir plein comme ça pour dire, la fille là, pasteur, on veut la fille là. Mais pourquoi? Tu te concentres sur quelque chose, ça ne vient pas et tu es toujours concentré dessus. Mais laisse ça et puis fais autre chose. le temps de revenir là. Parce qu'il y a des choses qui attirent d'autres choses. Je te dis la vérité, il y a des réussites qui attirent d'autres réussites. Si tu as l'argent, tu vas voir s'il y a des choses que tu vas poursuivre. Ça va te poursuivre. Tu poursuis plus ces choses-là, c'est ça qui te poursuit. Donc, il faut juste revoir tes priorités. Tout simplement. Alléluia. Sois ferme. Refuse d'abandonner. Dis, j'irai jusqu'au bout. Ça peut être difficile, mais j'ai les ressources qu'il me faut. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Parce que ce ne sera pas facile de ressembler à Jésus. Je vous dis la vérité. Je disais ce matin que, vous voyez, devenir ce que Dieu veut qu'on soit là, c'est sérieux comme enseignement. C'est trop sérieux. C'est trop sérieux. Devenir la personne que Dieu veut que tu sois, ce n'est pas négociable. C'est l'épanouissement même. C'est l'épanouissement. C'est l'épanouissement. Tu ne peux pas être épanoui si tu n'es pas ce que tu as. Dieu veut que tu sois et en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que la seule chose qui remplit ton cœur, qui met la paix et le bonheur dans ton cœur, c'est quand le Créateur, j'ai donné l'exemple, ce micro-là, il est fait pour parler. Il n'est pas fait pour servir du riz. Tant que je parle et tant que je fais ce pourquoi il a été créé, il est au meilleur de sa forme. Il opère à son maximum. Et il fait des exploits. Mais le jour où je prends pour mettre dans une sauce, la sauce, dès que je fais ça, le micro prend un coup pour toujours. Ça veut dire quoi? Quand la vie d'un homme est détournée à d'autres objectifs que ceux que Dieu a assignés à cette vie-là se détruit à petit feu. Et Satan, sachant ça, il ne se fatigue pas. La seule chose qu'il a à faire, c'est de changer ta vision. Quand tu es dans une vision qui n'est pas celle que Dieu veut pour toi, il t'a eu. Même si tu fais des efforts, c'est zéro à la fin. Zéro. C'est comme j'ai dit, ton patron te donne un document. Il te dit, bon, fais-moi ces calculs-là. Je veux à la fin, là, tout ça. Et quand il s'en va, quelqu'un a dit quelque chose, puis ça tombe dans ton esprit et tu oublies. Et tu vas faire un autre calcul. Mais l'autre calcul-là, tu as très bien fait. Tu as sorti le chiffre d'affaires de l'entreprise. Tu as fait ça parfait, mais c'est très bien fait. Le patron arrive. Il voit que le travail que tu as fait est tellement parfait. Mais ce n'est pas ce qu'il demande. Tu diras pas, mais Seigneur, patron, j'ai bien travaillé, hein? J'ai fait le boulot, tu vois, tout est juste. Il te dira, oui, mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé. C'est ce qui va arriver à beaucoup de gens. Parce qu'ils vont être bons dans quelque chose que Dieu n'a jamais voulu qu'ils soient bons dedans. C'est pourquoi je dis, tu ne peux pas être bon dans tout. Tu ne sais pas préparer. Il ne faut pas que quelqu'un va t'emmerder pour ça. Tu connais les meilleurs restaurants d'Abidjan, eux ne connaissent pas. Laisse tomber. Même chose. La vie est trop simple. Quelqu'un sait faire la cuisine, que Dieu le bénisse. Tout le monde n'est pas obligé de faire la cuisine. Quelqu'un sait faire, il y a des choses que tu sais faire, concentre-toi dessus et fais ça bien. Si ce n'est pas utile pour toi, il ne faut pas laisser quelqu'un perdre ton temps là-dessus. Frère, il y a des gens, tu vas leur dire, va faire école de musique pendant 20 ans, ils ne sauront jamais chanter. S'ils vont là, c'est une perte de temps. Il y a des gens ici, ils n'ont jamais fait école, tu leur donnes micro. C'est qui vont te sortir là? Ah non. Toi, tu as fait ton école, quand tu as PhD en voix ténor, il y a des gens ici qui vont te battre. Donc, pourquoi te fatiguer pour quelque chose que tu ne sais pas faire? Moi, là, ça ne m'intéresse pas d'être président de la Côte d'Ivoire. J'ai fait quoi avec? J'ai fait quoi avec? Si Dieu veut, ok. Mais pour le moment, là, c'est clair dans mon esprit que Dieu ne veut pas ça pour moi. Donc je fous de quoi? Je me sens bien quand j'ai le micro. Quand je parle et les vies changent, les destinées sont transformées, les mentalités sont changées, ça, je suis dans mon domaine. Et pour rien au monde, je vais laisser ça là pour autre chose. Il faut oublier ça. J'ai dit, oublie ça, je ne peux jamais laisser ce que je fais là pour quoi que ce soit. Je ne vais pas me sentir bien. Ma passion, c'est de voir les vies transformées. C'est de voir les mentalités changer. Parce que tout commence ici. Ici. Même la délivrance, ça commence ici. C'est tout. Alléluia. Les gens, ils envient les gens, ils veulent devenir. Ah, lui, là, il est comme ça, je veux faire ça. Ah, lui, il est comme ça. Il y a des gens, ils sont. Tu les vois, toute leur vie, c'est chercher à devenir. Ça fait que tout le monde est faux dans l'église. Les gens simulent, ils ne sont pas vrais. Pourquoi? Ils présentent des images, une image qu'ils ne sont pas. Ils présentent des choses qu'ils ne sont pas. Ils viennent à l'église, au lieu d'être eux-mêmes, avec ce qu'ils sont, pour qu'on puisse les aider, ils trompent les gens, ils simulent. Tu vois, tout le monde est faux. Et faux. Tu ne connais même personne. Les gens sont faux, hein? Oh, il y a des tueurs à gages à côté de toi, tu ne sais même pas. Il y a un tueur à gages, mais il est chrétien. Chrétien, ce n'est pas venir s'asseoir dans une église. C'est un style de vie. Dites avec moi, chrétien, c'est un style de vie. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Quand tu parles, on dit, pasteur, cet évangile-là, c'est il y a longtemps, ça. Pourquoi tu ne parles pas du nouveau évangile qui est fashion, là? La Bible ne change pas. Il y a un minimum de valeur que vous devez avoir. J'insiste, il y a un minimum de valeur que vous devez avoir en tant que chrétien. Aujourd'hui, les gens, ils vivent, ils n'ont même pas peur. Ils volent, ils n'ont pas peur. Ils doublent, ils n'ont pas peur. Ils mentent, ils n'ont pas peur. Cherchent femme, ils n'ont pas peur. Cherchent garçon, ils n'ont pas peur. Ils n'ont plus peur de rien du tout. Ta grâce me suffit, elle me suffit. Ta grâce. Ta grâce me suffit. Mais la grâce, ce n'est pas pour vivre dans le péché, c'est pour sortir. Là où tu ne peux pas, là, la grâce t'aide à sortir, c'est tout. Là, ils confondent les choses. Alléluia. Dernière lettre, c'est le S. Soumettez tout à Christ. Tout le monde dit, soumettez tout à Christ. Matthieu 6, verset 33 dit quoi? Termine avec ça. Oui? Matthieu 6, verset 33.
Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Cherchez premièrement. Qui croit cette parole-là, par exemple? Non, je ne crois pas. Il y a beaucoup de gens qui ne croient même pas cette parole-là. Cherchez premièrement. Quand il dit premièrement, mettez en priorité de votre vie. Numéro un, le royaume. Tout le reste va suivre. Les gens ne croient pas ça. Parce que si les gens croient, si vous là, vous croyez ça, on va changer Abidjan. On va changer ensemble Abidjan. On va couvrir le temple là dans 2 semaines. N'oubliez jamais ceci. N'oublie jamais que même si tu réussis au-delà de tes rêves et de tes plus grandes attentes, tu ne réussiras jamais au-delà de l'objectif auquel tu auras soumis ta vie. C'est du français. S'il arrive que tu réussis au-delà même de tes rêves, que tu dépasses même tes attentes, tu dois également admettre et comprendre que tu ne réussiras jamais au-delà de l'objectif que tu soumets à ta vie. Ça veut dire quoi? Je veux dire simplement que un homme, quelle que soit sa réussite est toujours inférieure à ses objectifs ou égale. C'est-à-dire, on réussit pas. C'est-à-dire que tu ne réussiras jamais au-delà des objectifs que tu assignes à ta vie. Mais à la limite, tu les atteins. C'est pas ça? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, soumettez tout à Dieu. Donc si Christ devient l'objectif de ta vie, quel que soit le succès que tu peux avoir dans la vie, il demeure ton patron. Mais le problème, quand Christ n'est pas le tout, le final, quand on atteint un certain niveau, il n'est plus le boss. On croit que on est arrivé. Mais si Christ est l'élément final que tu vas atteindre, est ce que tu recherches en un, alors Christ devient l'objectif final de ta vie. Et quelle que soit ta réussite, tu as toujours ton objectif est toujours là. Tu ne peux jamais dire non, ce n'est pas Christ. Donc soumettez tout à Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire en tout ce que tu fais, que Christ soit le premier. Qu'il soit au commencement, qu'il soit à la fin. Premier en tout. Premier quand tu te lèves, premier dans la semaine, premier dans le mois, premier dans tes ressources. Ça veut dire que quand Dieu te bénit, les prémices doivent lui revenir. Il dit toutes les prémices à l'Éternel. Combien de prémices à l'église? Jamais. Dieu les bénit, il bouffe. Dans tout ce que tu as, ce qui revient à Dieu doit revenir à Dieu. Combien de gens qui donnent leur dîme à Dieu? Jamais. Parce que Dieu n'est pas premier dans leur vie en tout. Il est premier quand il prie, pas premier dans leurs finances. Dieu veut être premier en tout. Ça, c'est un signe de soumission totale. Malheureusement, tu sais, tu ne peux pas réussir jusqu'à un certain niveau. Quand tu es chrétien, je ne parle pas de païen. Quand je parle de réussite ici, là, s'il vous plaît, il faut qu'on s'entende. Je parle de réussite d'un chrétien, né de nouveau, qui a réussi sa vie. Il y a combien dans la ville d'Abidjan? Il n'y a pas beaucoup, parce que beaucoup ne veulent pas payer le prix pour réussir et atteindre un niveau où on dit, ça, c'est un pasteur, ça, c'est un frère, il est diacre dans son église, mais frère, le gars là, quand on dit réussite chrétienne, là, il a réussi. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'ai vu cette femme, quand j'étais à Lagos, vice-président de la Banque mondiale, ministre des mines et de l'énergie, du pétrole de son pays. Une femme incroyable. Quand elle ouvre la bouche, tu sais que tu es face à quelqu'un qui a réussi. Elle est pasteur. Elle a de la dignité. Elle a de l'intégrité et elle a du caractère. Non, je dis, j'ai jamais vu une femme comme ça, je le dis, qui a autant de poigne, respectueuse, soumise, mais qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Hein, cette femme? J'ai dit, il y a des hommes de Dieu, on n'impressionne pas comme ça. Mais quand tu vois les Michael, tous ces papas-là se lever et acclamer la dame là comme ça pour dire waouh, Dieu a un enfant sur terre. Dans son pays là, vous savez que le Nigeria est quand même l'un des, en termes de pétrole, c'est l'un des, je pense peut-être le premier en Afrique de l'Ouest, hein? En Afrique pratiquement. Elle a été ministre de ça là. Elle dit des milliards qu'elle brassait. Ce que les gens envoient dans son bureau pour déposer des milliards, pour juste signer des contrats. Elle regarde ça et dit non. Jésus-Christ est Seigneur. Frère, c'est une femme, hein? On la connaît. Il n'y a pas quelqu'un qui est jusqu'à ce niveau au Niger qui ne la connaît pas. Elle parle au président. Elle met le président. Elle, quand un président déconne, elle te met à ta place. Elle nous a raconté tellement d'histoires qui font rire de un président quand ils sont à des dîners, comment les gens réagissent et quels sont les présidents conscients et les inconscients qui ont vendu leur pays. Et le pays est sur pilotage automatique. Le monsieur, il ne fait plus rien. Il a branché les trucs et puis là, il dort. Il ronfle seulement. Il demande. On dit quoi? Ils ont envoyé un peu d'argent. Il a dit, ils ne savent rien. Ils vivent. Ils n'ont pas d'objectif. Ils sont à la tête des nations. Je vous dis la vérité. Hein? Arriver à ce point-là. Mais tu peux devenir une telle personne. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Et les Africains aujourd'hui, un Africain, dès qu'il réussit un peu, dès qu'il réussit, Dieu l'aide un peu. Dès que Dieu sort sa tête un peu de l'eau, la prochaine étape, c'est avoir 3 maîtresses. Pourquoi les Africains sont comme ça? C'est pourquoi j'aime bien souvent les chansons du monsieur là. Le petit bété qui parle, un coq qui se prend un coq quand il fait les clips là. Il a chanté un truc, bété a réussi. Bété a réussi. Il se fouille, mais ça. Il dit, c'est série. Moi, série, je suis arrivé. Pardon, là, ici. Change sa voiture, mais il dit au mécanicien, mets anti-vol, les trucs là. Piu, 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 piu. Quand il gare, tout le monde, le quartier sait qu'il a garé. Un enfant joue à côté, ça crie, oui, 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 oui. Il faut aller chercher série là où il est pour venir arrêter le truc. C'est les hommes n'aiment pas la réussite. Je comprends pourquoi la majorité des chrétiens ne s'en sortent pas. Parce que Dieu te connaît. Si il t'aide un peu, il va te perdre. Il va te perdre. Et à mon frère, la tuerie, tu te connais? Actuellement, tu es à l'église en jean, tu es assis, il y a tes portables ne sonnent pas. Dieu n'a qu'à t'aider un peu. Mon frère, tout à coup, tu deviens beau. Change de style, cherche une petite voiture pour impressionner les gens. Il a la... Bon, je parle, c'est pas lui, hein, mais tout le monde est comme ça, en général. Frère, la soumission à Dieu, le vrai succès là, ça dit que tu as réussi, mais ta vie reste une vie qui glorifie Dieu. Tu es droit, on te donne l'argent, tu fais les comptes comme il faut rendre. On te met une position de responsabilité, tu es digne. Quelqu'un te donne sa fille à garder, tu ne l'enseignes pas. Alléluia. Tu es digne. Dis amen. Vous savez, ce que Dieu nous demande là, on n'a pas de choix, on va être la chose et on doit être la chose. On doit être la chose. Je vous dis, on doit être la chose. L'église, c'est pour ça. C'est pour changer. Tu viens à l'église que Dieu ne te parle pas, c'est que tu... Soit tes oreilles sont fermées ou bien j'ai un problème. Mais Dieu, il parle. Quand il est dans l'église, Dieu parle. Donc, réussir, c'est ça. Se soumettre à Dieu. La vraie puissance et la vraie capacité viennent de notre soumission. Est-ce que vous savez que, quand vous lisez Jacques 4, verset 7, ce n'est pas la peine de lire. Je vais citer. La Bible dit quoi dans Jacques 4, verset 7? Il dit, soumettez-vous à Dieu. Et là, c'est conjonction de coordination. Résistez au diable. C'est quand un homme est soumis qu'il a le droit de résister au diable. Tu ne peux pas te permettre de résister à Satan si tu n'es pas soumis. Il va te manger comme tra-tra. J'ai cherché ce vieux mot-là, ça a circulé dans ma tête. Tu connais tra-tra? T'es bouffé vite. Il est impossible à un homme de résister à Satan sans être soumis à Dieu. Donc, vous voyez que la soumission n'est pas négociable. Mais un homme qui n'est pas soumis, il ne peut même pas faire face au péché. Est-ce que le péché va te vaincre si tu n'es pas soumis? Le péché va te défaire. Le péché va te malmener. Le péché va prendre ton coup. Le péché va avorter ta vision, va avorter ta destinée. Le péché va te tuer. Si tu n'es pas soumis à Dieu. Aucun homme n'a le pouvoir de faire face au péché sans être soumis à Dieu. Jamais. Qui es-tu? Dis-moi ton nom. Et je te dirai que la seule chose qui peut t'aider à faire face au péché, c'est quand tu as compris que Christ est tout et tu soumets ta vie à sa vie. La capacité de Christ devient ta capacité. C'est là que Satan peut dire A. Tu peux dire non, 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 moi je veux B. Et puis tu tiens bon. Tiens bon. C'est tout. Si quelqu'un te prêche un autre évangile que ça, il t'a menti. Je le dis de cette chair, il t'a menti. Il n'y a pas de technique pour faire face au péché. Il n'y a pas de révélation spéciale pour faire face au péché. Il n'y a pas d'imposition des mains. Quelqu'un va venir à une onction spéciale. Il t'impose les mains et puis toute ta vie a changé. Tu ne peux plus. Tu vois le péché, tu as peur, tu fuis. Ce n'est pas vrai. Décide de soumettre ta vie à Dieu et de devenir un chrétien. Convertis-toi. convertis-toi. Change ton cœur. Si tu as besoin de délivrance, on va te délivrer. On croit à la délivrance. Maintenant, si tes problèmes sont des problèmes de fondement, il faut qu'on règle les problèmes de fondement. Parce que l'un des gros problèmes de beaucoup aussi, ils sont assis sur trop d'alliances et de fondements. Mais les fondations, les fondements et les alliances, tu sais, tu n'as plus le contrôle. Parce qu'ils agissent de façon saisonnière. Et quand ils se réveillent et qu'ils font des réclamations, ta volonté est court-circuitée. C'est ce qu'ils veulent te faire faire qu'ils te font faire. Quelqu'un qui a un problème de fondement, ce n'est pas quelqu'un, c'est pas la même chose avec quelqu'un qui dit, bon, oh, j'ai commis une erreur, j'ai pas envie de fumer, puis donc j'ai pris une cigarette, j'ai fumé, je me repens. Oh Seigneur, pardonne-moi, quelle bêtise j'ai fait. Non, quelqu'un qui a un problème de fondement, à ce niveau-là, même, c'est-à-dire, il ne contrôle plus rien. C'est la chose-là qui réclame ça. Il doit faire. Donc même si il dit, oh, je regrette, dans tous les cas, dans 3 jours, il va faire encore. Parce que dès que ça va réclamer, sa volonté est court-circuitée. Parce que dans l'alliance-là, mon cher, l'alliance a des réclamations que tu n'as pas le droit de refuser. Tu ne peux pas refuser jusqu'à ce que tu brises l'alliance. Frère, la vie n'est pas simple. C'est pourquoi je veux vous demander en tant qu'église, prenez conscience. Ne laissez pas la vie vous détruire. Dieu n'a pas créé la vie pour qu'elle vous détruise, mais pour que vous la viviez et que vous soyez heureux. Si tu es en train de souffrir, nous sommes là pour t'aider. Ne reste pas pour mourir dans ton coin. Ne reste pas dans un petit coin, on ne sait pas qui tu es. Parce que tu veux entretenir une image. Quelle image? Quelle image tu veux entretenir? Quelle image? Alors que tu souffres. Alors que, mon frère, si Jésus vient maintenant, tu restes ici à Abidjan. Quelle image tu veux protéger? Quelle image? Fais-toi aider. Tu es allé loin, le diable, on va te sortir. C'est possible. Sois honnête. Parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui n'est pas prêt à dire la vérité ou à être honnête avec lui-même. Pour dire, je souffre. C'est pourquoi j'ai dit, il y a beaucoup. Il faut faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Tu les regardes, tu vas croire que... Mais c'est des gars corrects. Hein? Des gens corrects, ils n'ont aucun problème. Mais il y a d'autres qui semblent être corrects, mais qui sont le diable. L'apparence, ça trompe. L'apparence est trompeuse. Tu ne peux pas faire le travail d'un pasteur. Si tu n'es pas libre, je te dis en vérité, tu ne peux pas. Tu as libéré qui alors que toi-même n'es pas libre? Tu sais, c'est des choses, avec le temps, ça te rattrape. Quand tu n'es pas libre, tu n'es pas libre. Ce que je veux te dire ce matin, laisse ton orgueil là et fais-toi aider. La vie n'a pas le droit de prendre le dessus. Demande à Dieu sa grâce. Dieu va te communiquer des valeurs. Ça va rester dans ton cœur. Il y a des choses, même si tu es seul,